Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici, une heure ou presque, voire plus qu'une heure largement, pour causer de tout, de rien, parfois surtout de rien, avec la fine équipe que vous aimez et qui m'accompagne ce soir, Julie Le Baron. Salut Julie.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Ganson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Le chant du cygne de Game of Thrones, le cinéma face à la part grandissante de la technologie et le traditionnel point sur le programme du Festival de Cannes. C'est le Nos Ciné Club 16e du nom et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions et on tâchera à la toute fin de cette émission de répondre au meilleur, c'est promis. Avant notre premier sujet, petite parenthèse liée à l'actu récente, extrêmement mortifère, hein, parce qu'il y a eu énormément de disparitions. C'était évidemment avec la plus grande tristesse et la plus grande émotion que la cinéphilie a accueilli la nouvelle de la mort. La semaine passée d'abord de Jean-Pierre Marielle, incarnation d'une forme quasi révolue de cinéma, dont il était avec d'autres grands disparus comme Rochefort ou Noirel, un des visages les plus évidents, puis dans un tout autre registre mais tout aussi malheureux, le décès hier de John Singleton, réalisateur entre autres de Boys in the Hood, premier noir à recevoir une nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur, c'était en 91, il avait alors 24 ans seulement, c'était d'ailleurs le plus jeune nommé pour cet Oscar, et puis on a appris juste avant le démarrage de cette émission, décidément, qu'Anémone, à son tour, nous avait quitté, elle avait 68 ans, je crois,
oui, 68
ans, c'est ça, voilà, c'est bien malheureux. On va pas forcément commenter, parce que c'est pas trop notre spécialité, les chrysanthèmes dans cette émission, on en parlera éventuellement en fin d'émission si vous avez des questions. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Notre premier sujet, difficile d'y échapper si vous passez un temps même des plus restreints sur les réseaux sociaux. La 8e et dernière saison de Game of Thrones, actuellement en cours de diffusion un peu partout dans le monde, fait tourner plus d'une tête. Conclusion de la saga oblige, tous les fans sont un poil tendu à l'approche de chaque nouvel épisode, tant le risque de voir ses personnages favoris oxy sans vergogne est élevé. Alors on va tenter de causer de tout ça, alors avec le minimum de spoilers si possible sur la saison en cours.
Parce que, surtout pour toi en fait.
Voilà, ouais, c'est ça. Pensez à moi qui suis en train de tout revisionner en ce moment et je n'en suis qu'à la saison 5. Donc c'est pour
c'est
vous
chaud.
Dire un peu c'est chaud.
Voilà, ah, ça va vite
c'est,
parce que hier c'était 4.
J'ai fini la 4 hier soir, dans la nuit.
Oh, il est fifou. Il est fifou.
Comme un fou, comme un fou. Je suis rentré, madame avait regardé déjà 5 épisode, donc j'avais beaucoup de retard. Bref, ça c'est ma vie perso, c'est pas très intéressant.
TMI.
Trop d'informations. Perrine, tiens, tu as très envie de parler de Game of Thrones, je sens.
De Game of Thrones, oui, bah oui, j'ai envie d'en parler parce que je me souviens, on s'est vu il y a quelques semaines tous ensemble,
on se voit souvent.
La dernière, bon voilà, peu importe, on s'était vu et on en avait été prendre un verre et puis on discutait de Game of Thrones et à un moment donné, on a dit cette phrase. Oh la vache, en fait, c'est fou. Là, on a envie d'en parler parce que ça fait 2 ans presque qu'on doit se taire autour de Game of Thrones, en fait.
On n'avait plus rien à
dire. Enfin, c'était un petit peu, bon, bah, il y avait ces 2 ans de latence. On savait que ça revenait que beaucoup plus tard. Donc, il y avait presque eu un an de silence radio total autour de Game of Thrones. De temps en temps, quelqu'un le lançait dans la conversation. Puis tout le monde le regardait avec un petit air triste, genre, oui, oui, on sait encore un an. Et donc, voilà. Mais là, d'un seul coup, à l'approche, tout le monde s'est mis à en parler. Et vraiment, on voit à quel point, en 8 ans de temps, 9 ans de temps, parce que ça s'est lancé en 2011, cette série, elle a pris une ampleur assez démentielle, d'être tout de suite un vrai événement de pop culture, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas attendu d'être terminée, elle n'a même pas attendu quoi que ce soit. C'est déjà totalement dans la pop culture, c'est déjà rentré, c'est déjà cité partout. Donc c'est quand même assez surpuissant, quoi, le phénomène Game of Thrones.
Et puis il y a un côté conversationnel énorme, notamment sur les réseaux. Enfin, vous suivez tout ça comme moi. David, tu c'est un des aspects qui t'intéresse le plus.
Tu as Facebook, David.
Facebook, David.
Ah, moi, depuis peu, je crois. Ouais. Moi, j'ai switché de copain d'avant à Twitter il y a quelques
compétent.
Folie. Folie du gars. De ouf.
Donc, non, mais effectivement, moi, c'est un aspect qui me plaît beaucoup, c'est de suivre le phénomène qui est autour de la série. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, d'envisager le truc comme... comme un phénomène complètement collectif, au même titre que, je sais pas, la Coupe du Monde, quoi, en fait. Et on voit d'ailleurs les gens se regrouper dans des bars pour regarder les épisodes.
Ceux qui n'aiment pas ça, dire que tout le monde les saoule avec ça, comme pendant les Coupes du Monde.
Non, mais voilà, alors c'est ça. En plus, tout le monde est obligé d'avoir un avis. Ouais. Soit ça m'intéresse, soit ça m'intéresse pas. Comment ça, moi, même si on n'a pas suivi les épisodes, on sent le besoin de le dire. Et puis, l'autre truc, c'est que, mine de rien, c'est une saga qu'on suit depuis un petit moment. On a fait, il n'y a pas très longtemps, l'épisode sur Avengers Endgame. Et pareil, là, on arrive à la conclusion d'une longue épopée. Et je trouve que, quand on fait la comparaison, je suis, mine de rien, beaucoup plus enthousiasmé par Game of Thrones, notamment pour un truc que tu disais en intro, c'est que le sort des personnages, on s'y intéresse. Oui. Et que, contrairement à Avengers, où en gros, avec Marvel, on a été habitué au fait de s'en foutre un petit peu, parce qu'on sait très bien que, en gros, personne va mourir, ou alors à la toute fin. Game of Thrones nous a conditionné à l'inverse, c'est-à-dire nous a expliqué très très vite que attention, n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. Et ça permet, jusque dans le dernier épisode, d'avoir des arcs narratifs que je trouve hyper, hyper soigné, hyper intéressant, qui remonte sur un certain nombre de saisons, un certain nombre d'épisodes, et qui du coup sont hyper puissants quand ça se passe. Après, moi, j'ai toujours eu des réserves sur la série, que je trouve clairement ça reste un soap qui manipule énormément de personnages et qui du coup repose énormément sur le dialogue, et je trouve que
qui reprend énormément de codes
et de codes du soap, en ajoutant donc c'est pas un soap de base comme Dallas, parce que par-dessus il y a tous les aspects de l'heroic fantasy, du cinéma d'action, etc. Mais ça reste un soap, et je trouve un des aspects les plus décevants, en fait, dans cette série, c'est le manque d'imagination dans la manière de filmer les dialogues. Et comme la série, c'est quand même énormément de dialogues, d'un point de vue cinéphile, je me fais quand même pas mal chier la plupart du temps. Mais je peux pas nier que narrativement, y a vraiment plein de trucs hyper intéressants, hyper bien construits, que les personnages sont soignés, que le casting est vraiment, vraiment très bon. Et mine de rien, certains des personnages principaux, c'est des acteurs qui ont été castés gamins.
Oui.
Et c'était pas facile de détecter
eux,
voilà,
le
potentiel. Voilà. Donc voilà, je suis assez enthousiasmé là, pour regarder... tous les épisodes, et puis l'aspect spoiler, enfin je pense qu'on va peut-être un peu développer ça, c'est-à-dire la psychose qu'il y a autour des spoilers, mais moi je trouve que ça fait partie du jeu, et que effectivement le lundi matin faut faire un petit peu gaffe sur les réseaux sociaux, mais ça fait partie presque de l'excitation autour du truc, en disant attention, putain, aujourd'hui tant que j'ai pas vu l'épisode, faut vraiment que je fasse gaffe, et voilà, donc pour le moment je suis assez enthousiasmé par le début de cette dernière saison.
Enthousiasmé aussi, Julie ?
Ah oui, plutôt enthousiasmé pour l'instant. Enfin, moi, après, je vous rejoins sur le côté fédérateur de Game of Thrones. Moi, c'est vraiment un truc qui fait partie intégrale de l'expérience, selon moi. Et y a des séries comme Lost que je regrette de ne pas avoir vécu en direct, parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir suivre le truc, avoir cette espèce de rendez-vous hebdomadaire où tu as plein de gens qui échangent des théories. Et donc, pour Game of Thrones, c'est un peu à double tranchant, dans le sens où moi, j'adore vraiment lire toutes les théories absurdes qu'il va y avoir sur le Night King. Il y en a qui me paraissent absurdes. Il y en a certaines qui s'attachent à des détails que j'avais absolument pas vus, ce que je trouve vachement bien. Ça montre un peu la lecture différente que chacun peut avoir de la série. Et parfois, il y a ce problème que j'ai, c'est que certaines théories sont tellement bonnes que je sais que je suis exposée à une déception. Si elles ne se concrétisent pas, je vais avoir les boules. Ça m'est arrivé avec True Detective saison 3, notamment. Il y avait une théorie excellente et elle ne s'est pas réalisée. Enfin, bref. Donc j'étais amèrement déçue. Mais... disons que c'est une série, moi, qui m'enthousiasme énormément, mais après, le petit bémol que je pourrais mettre là-dessus, c'est juste que donc, toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc, même si Game of Thrones donc, avait un début et une fin arrêtés, j'ai quand même le sentiment un peu que ça a un peu traîné en longueur sur la fin, et que, bizarrement, cette dernière saison, dont je vais éviter de spoiler, a un côté un peu rushé par moment. qu'une série donc, qui s'est bâtie donc, sur la longueur, sur des dialogues excessivement longs et bien écrits d'ailleurs, même si, comme disait David, dans la manière de les filmer, on ne peut pas dire que ce soit des plus inventifs. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un truc un peu plus rapide, quoi. Et là où j'espère être surprise, c'est sur la manière de filmer les scènes de conflit. Parce que ça, c'est un truc dans lequel Game of Thrones a excellé. Enfin, vraiment, je trouve que les conflits sont excessivement bien filmés et j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils nous réservent. Et donc, pour finir, juste sur le côté toutes les bonnes choses ont une fin, j'arrive même pas à être complètement enthousiasmée par le nombre de spin-off qu'ils vont faire.
Oui.
En fait, quand j'ai appris qu'il y avait. Enfin, en plus, c'est un nom complètement. Délirant, ouais, il y en a genre 5.
Ouais, ouais. Dont un qui est vraiment en développement, mais 4 autres qui sont.
On sait pas trop en fait.
Stades un peu moins avancés. Ouais.
Parce que c'est ça, c'est que moi j'aimais beaucoup. J'aime bien Game of Thrones, j'aime bien ce que ça représente, mais je me dis juste que. Est-ce que ça va être possible de recréer cette magie je suis pas sûre, mais peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Quoi.
Bon, l'expérience mais prouve que c'est rarement le cas, a priori.
Il y a Better Call Saul.
Oui, c'est vrai,
Better Call Saul, il paraît que c'est génial.
Bah, pour revenir sur les spoilers et la comparaison faite par David entre Game of Thrones et Avengers, enfin en tout cas le MCU, je pense que la grosse distinction, c'est qu'il y en a une qui est, moi j'ai l'impression, je suis peut-être un peu naïf, mais que c'était assez spontané finalement la peur en fait du spoiler et le fait d'en parler sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter.
Qui n'était pas forcément anticipé par la prod et tout ça.
Par la prod et qui même d'ailleurs en fait, par HBO qui à l'époque, en tout cas je ne sais pas s'ils ont changé de discours là-dessus, mais étaient tout à fait partants pour que les gens téléchargent les films illégalement, enfin les séries illégalement, en fait, ils étaient même assez contents parce que ça développait vraiment l'univers et je pense que tout ce qui pouvait marketer autour et vendre. Mais indépendamment de ça, moi je sais que j'ai commencé à regarder Game of Thrones assez tardivement, c'est-à-dire 3 ans après la première saison. Donc du coup, il y a des trucs que je savais déjà.
Oui.
Comme le Red Wedding, ce genre de choses. Quoi, et je savais plus ou moins ce qui se passait. Et ce qui est très fort, c'est que ça n'empêche absolument pas d'être choquant. Donc du coup, ça fonctionne quand même d'un point de vue, je trouve, narratif. Ce qui est finalement le propre d'une bonne série, en fait. Parce que même si tu sais exactement tout ce qui va se passer, ton attachement au personnage fait que, en gros, si tu veux, tu peux y revenir sans problème. Être quand même choqué de plus ou moins de la même manière, voire dégoûté, voire même si tu as déjà vu les épisodes. Ce qui, sans bâcher Avengers, je sais pas si c'est vraiment faisable, mais indépendamment de ça, le truc sur Avengers, c'est surtout que là, pour le coup, c'est maîtrisé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce week-end, tous les acteurs du film, les réalisateurs, ont tous sorti leurs petits mots, ne spoilez pas le film, il y a des trucs à spoiler, donc faites attention, etc., etc. Et c'est ce qui fait qu'en gros, à la fin, je pense que tout le monde, comme l'an dernier avec Infinity War, tout le monde s'est rué dans les salles le premier week-end pour vraiment être sûr de ne pas se faire spoiler la gueule.
Alors, ils ne maîtrisent pas absolument tous les acteurs, parce que cet après-midi, Letitia Wright, elle a retweeté quelqu'un qui avait filmé 2 minutes du climax. Et donc, le truc a duré 1 heure. La vidéo, elle était en ligne depuis 48 heures. Et c'est vraiment le climax Avengers Assembly. Et elle a retweeté le truc et elle répondait aux gens « ça va, le film est sorti et tout. » Et en fait, genre 1 heure après, le truc a été bloqué pour droit d'auteur.
Il y a eu
c'est chaud.
Il y a eu aussi une behind the scenes sur Instagram de Zoé Saldana.
Ouais.
Dont le personnage est mort dans le film l'an dernier, expliquer que ça vient d'Endgame, c'était un peu un spoiler aussi, quoi. Mais après, à part ces petits dérivés, tu sens quand même qu'il y a une com qui est vraiment dirigée dans l'intention de attention, c'est comme Game of Thrones, en gros, vous allez vous faire spoiler. Et je pense que c'est vraiment leur modèle, en fait. Hein. Ils se sont dit, on va émuler ça, et on va, pour le coup, le créer de toutes pièces, contrairement à Game of Thrones, où, je pense que c'était vraiment spontané, c'était parti du choc, en fait, d'avoir ces séquences-là, et de se les prendre en pleine gueule, quoi.
Mais c'est vrai qu'on a presque envie d'avoir une étude sociologique autour de Game of Thrones, de voir sur les comportements, en fait, presque comportementaliste. C'est-à-dire que voir comment ça a influencé. Donc on parlait des spoilers et d'un seul coup, finalement Game of Thrones est bon pour toi puisque comme ça, ça t'apprend à t'éloigner des réseaux sociaux pendant une journée. Donc c'est pas plus mal finalement. Merci Game of Thrones. Game of Thrones détox, c'est grâce à ça. Mais il y a aussi le justement, on apprend à conditionner la manière dont on va se comporter. Aussi, je prends un exemple, ma jauge à moi qui sont mes parents, qui n'ont jamais rien eu à faire du streaming ou de ce genre de choses, c'est à cause de Game of Thrones que les gars se sont mis à streamer. Et ils sont mis à découvrir les sites pirates, les trucs comme ça, et à regarder des trucs en sous-titré, ce que jamais ils n'auraient fait jusque-là.
Ils sont en prison maintenant.
Mais pardon, et Adopi chute. Hein. Et donc, mais parce que d'un seul coup, voilà, la puissance de la narration. Et c'est vrai qu'il y a un vrai épiphénomène autour de Game of Thrones, parce qu'au départ, en effet, l'idée du soap qui mélange beaucoup de choses, tu l'as dit, David, l'héroïque fantasy et plein de choses. Mais c'était pas un pari gagné de départ, même si on a eu le phénomène Seigneur des Anneaux d'une certaine façon, qui prouve que ce type d'univers potentiellement peut plaire. Dire que ça va durer pendant 9 ans, c'est quand même pas gagné. Et même encore une fois au niveau du comportement, c'est intéressant parce que c'est ce que Stéphane disait, c'est qu'à un moment donné, ben, même si tu savais, t'es quand même étonné ou dégoûté ou quoi que ce soit. Et en même temps, les gens sont pas forcément dégoûtés par les mêmes choses dans Game of Thrones. Oui. Donc c'est assez intéressant de regarder un petit peu son voisin, d'une certaine façon, de dire « Oui, ben, moi, par exemple, qu'une gamine de 12 ans bute tout le monde, empoisonne tout le monde et tranche la gorge des gens, ça va. Par contre, qu'elle couche avec un mec, là, j'ai un problème. » Donc c'est d'un seul coup, on voit les limites presque sociétales de tout le monde, c'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut tolérer, qu'est-ce qu'on ne peut plus tolérer. Donc je trouve que vraiment, on pourrait regarder cette série sur quel impact elle a réellement sur la société et qu'est-ce qu'elle dit de notre société en fait. Et c'est ça que je trouve hyper fort, c'est presque une expérience vraiment une très grande échelle en fait. Parce que je crois qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont vu le premier épisode de la saison 8, donc c'est énorme. Et donc dans l'idée, tu peux regarder à très grande échelle finalement l'impact que peut avoir cette pop culture, que peut avoir un récit, que peut avoir une narration sur le monde en fait. Et enfin sur le monde, enfin en tout cas sur les gens. J'ai presque envie de dire qu'en se te dit, on en parlera pendant encore un bon bout de temps en fait, je pense, de Game of Thrones.
L'impact sur l'industrie, d'ailleurs, tu parlais du côté illégal, mais en fait même sur l'offre légale, ça a vachement fait évoluer le truc, et notamment là par exemple OCS propose en live carrément même la VF en même temps que la diffusion américaine, et il y a encore quelques années ce genre de dispositif ça n'existait pas du tout. Donc il y a aussi le côté phénomène mondial fait pas mal avancer l'offre légale, et du coup de plus en plus avec les Netflix et compagnie on va avoir des sorties mondiales et du coup des événements pop culture à résonance vraiment mondiale, et ça c'est quand même assez intéressant. Et après sur l'aspect des réseaux sociaux, moi ce que je trouve vraiment cool, c'est que au-delà de l'aspect de la discussion sur les spoilers ou pas spoilers, c'est aussi tout ce qui relève de la production de pop culture, et dans en gros, tout élément de la série va pouvoir éventuellement être détourné, devenir un mème, rentrer dans le langage commun. Et c'est ça qui est très excitant.
On l'a encore vu il
n'y
a pas longtemps avec la photo de Daenerys qui fait une espèce de sourire parfait, voilà. qui était partout sur les réseaux sociaux.
Les mêmes Game of Thrones, c'est extraordinaire.
Et puis le climax du dernier épisode, c'est vraiment le nombre de fois où il est utilisé.
On ne dira rien.
On ne dira pas ce que c'est.
Je sais ce que c'est.
Tu sais carrément ce que c'est.
T'as
pas pu passer. Oui, t'as vu la vidéo.
C'est
fait
avoir.
Mais c'est incroyable, c'est que il y a des milliers de parallèles de trucs, et c'est hyper marrant en fait, parce que d'un coup tu es dans un truc où tout le monde a la référence en gros. À part ceux qui sont à saison 5, mais...
Non, mais et ça, c'est la dernière... Je pense que c'est un peu le dernier des Mohicans à ce niveau-là, cette série. C'est-à-dire que quand on était finalement plus jeune, il y a quelques années, on n'avait pas tellement de choix des séries, puisque c'était ce qui passait à la télévision. Après, ça arrivait avec le temps en France ou quoi que ce soit. Mais il y avait un délai. Donc, tout le monde connaît Friends, parce que de toute façon, il y a quasiment que ça à regarder. Maintenant, avec la multiplication des channels, la multiplication des plateformes, tout le monde en a pour son goût ou ce qu'il veut. Donc, finalement, tout le monde n'a pas les mêmes références, tout le monde ne regarde pas la même chose. Et Game of Thrones, je pense que c'est quasiment l'une des dernières séries où d'un seul coup, il y a un retentissement global et avec, encore une fois, cette idée de nombre. Ce qui n'est plus le cas d'aucune série. On pourrait même dire Stranger Things, ça ne sera jamais la même chose que Game of Thrones, en fait. Donc je trouve que c'est quand même, en soi, elle est spectaculaire à des tonnes de niveaux, cette série.
Enfin, c'est à la fois la dernière et la première sur le côté simultanéité mondiale.
Ah oui,
c'est-à-dire que par le passé, que même Friends, c'était pas
simultané.
Le monde entier en même temps. Mais donc là, il y a vraiment un truc dingue à ce niveau-là.
Mais au-delà des séries, je me demande c'est quoi ce dernier phénomène donc d'une telle ampleur et intergénérationnelle qu'on a connu en fait. Enfin, j'essaye de voir ce que ça a pu être, mais
le MCU.
Le MCU.
Non mais c'est vrai pour le coup, il a pas le temps, le MCU. C'est vrai que on voit que les parents qui sont obligés d'aller le voir avec les enfants. Enfin voilà, mais au bout d'un moment, et puis il y a des gens qui sont juste très contents d'y aller. Il y a quand même un impact où dans un film, on va citer Iron Man ou on va citer Captain America, tout le monde aura la référence. Il y a peu de gens qui vont être paumés en fait.
Ouais, le DCverse aussi, ça marche moins bien.
Hein, du coup.
Un peu moins bien. Juste avant qu'on passe à notre petit jeu, si on faisait un petit tour de pronostic, qui va finir sur le trône de fer? Vous avez chacun votre théorie, David?
Le nain,
ouais, Tyrion.
Moi, c'est le forgeron, et je pense qu'il va forger des nouveaux trônes Gendry. Pour la paix dans le monde, c'est ma théorie.
D'accord. Pour la paix dans le monde.
Très bien. Julie, tu as une théorie?
J'ai deux théories. La première, c'est Cersei. Je dis pas que c'est ce que j'ai envie de voir, hein, mais Cersei, et l'autre, c'est Jon Snow. Voilà.
D'accord, très bien. Perrine?
Team Sansa. Pour moi, Sansa sur le trône, avec comme main, puisqu'il faut une main pour protéger... j'ai peur de faire du spoil, en fait.
c'est hyper horrible,
parce que bon, j'ai en train de... Sansa.
Sansa, ok, super. On verra qui de vous quatre a raison. Peut-être aucun, on ne sait pas. Le No Ciné Club continue, vous savez, c'est la tradition. Avant donc notre prochain sujet, il y a un jeu. Show me what you got. Et ce sera donc comme toujours un petit quiz pour nos amis autour de la table. Alors on parlait de Game of Thrones. Tiens, 5 questions totalement vachardes sur la série.
Oh là là.
Histoire de voir si vous suivez bien comme il faut, c'est garanti, sans spoiler, de la saison.
Il faut sortir les noms et tout.
Moi je connais pas les noms des personnages.
Ah ouais.
Et bah justement, on verra bien. On a mis le petit chronomètre, merci Solène. Si nous nous sommes habitués à bon nombre de visages désormais connus dans la série, il y a au moins un comédien qui n'a pas eu l'opportunité de marquer durablement nos esprits puisqu'il a tout bonnement été remplacé entre la saison 3 et 4. Est-ce que vous sauriez me dire de quel acteur et de quel personnage il s'agit?
C'est le personnage de le mec
qui est avec Daenerys,
non? C'est avec Daenerys, là, le mec qui fait Dario.
Ouais, c'est ça, c'est Dario.
Et c'était, on dirait, c'est Ed Skrine.
Exactement.
Ah non, mais là, gros niveau.
Trop fort.
J'avais pas son nom, mais il a dit un sale truc ou.
On ne sait pas exactement.
Il s'est retrouvé dans une polémique.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, je crois que c'était parce qu'il tournait autre chose.
Il tournait un
transporteur.
Le pauvre. C'est un bon choix de carrière, ça. Un Lannister paye toujours ses dettes. C'est une phrase répétée tout au long de la série, au point qu'on en vient presque à oublier que ça n'est pas la véritable devise de la puissante maison. Est-ce que vous sauriez me dire quelle est cette devise?
Il y a lion dedans, non?
Presque. Enfin, c'est en rapport avec les lions, effectivement.
Roux. Il n'y a pas un truc sur les roues, non?
Le félin rugit
pas loin.
Toujours.
Un Lannister rugit ses dettes, je ne sais
pas. Non, pas du tout.
Le lion...
Putain, on n'a pas du tout.
Est mort ce soir. C'est un peu contre-performatif. Non, c'est Hear Me Roar. C'est Je rugis, c'est traduit en.
Ah oui, en fait, c'est Katy Perry.
Oui, c'est ça, j'allais faire cette Perry.
Merci pour les bonnes références.
Il y a le frère de Katy Perry qui joue dans la série, donc tout est logique.
Ah bon? Il y a le frère de Lily Allen. Tu vas pas nous avoir avec ce genre de phrases.
Heureusement, ça n'était pas une des questions que j'avais préférées. On ne désigne généralement la série et les livres dont ils sont tirés que sous l'appellation générique Game of Thrones, sous le trône de fer, qui est en réalité le titre de la série uniquement, et celui du premier volume de la saga littéraire qui, elle, porte un autre nom. Savez-vous lequel?
The Song of Fire and Ice. Ice and Fire.
Tout à fait. C'est une question facile. Mais tu l'as trouvé quand même, Stéphane.
Oui, bah oui.
Non, excuse-moi.
Comment il diminue là?
Je ne voulais pas diminuer ton effort.
Pas du tout.
L'un des ressorts dramatiques qui traverse la série, c'est la lutte entre plusieurs croyances, notamment celle des anciens dieux, celle du dieu unique, le maître de la lumière, et celle plus officielle des sept, les sept dieux. Est-ce que vous saurez me dire qui sont ces sept dieux?
Non.
Non, absolument pas.
Très bien.
Cet ancien roi.
Non, mais les noms.
Ah bah ouais,
tu connais les sept noms.
Elle a dit qu'elle connaissait tous les noms. Alors.
Mais non, bah Dormeur.
Non.
Grinch.
Ce serait chambé. Non, vous ne l'avez pas, David, non plus.
Tu peux en dire un, non, juste qu'on a juste
un. Ouais, un peu. Comment ça
s'appelle? Il y a le père.
Il y a la mère,
le père, la mère.
Si, parce qu'avant il lui dit quand il.
Oui, il
s'est dit. Envie de spoiler, mais
c'est,
voilà.
C'est dit dans la
avec
série plusieurs fois.
D'adoubement,
ouais. Si, il y a le père, la mère.
Le saint.
Le fils.
Non. Non, il n'y a pas le fils.
La sœur. La tante.
La cousine.
La cousine germaine.
Non, il y a l'aïeul, le guerrier, le ferrant, la jouvencelle et l'étranger.
Ah, la jouvencelle.
Mais il joue au tarot, en fait.
Ouais, un petit peu. Et pour conclure, une question qu'on doit à mon camarade Quentin Bresson, ici présent à la technique. Saurez-vous me dire combien d'habitants compte cette belle région qu'on appelle Westeros? À peu près.
On compte les marcheurs blancs ou pas?
Non, je pense que les habitants, c'est les...
Un petit 500 000,
ça, Westeros,
du recensement.
Un petit 500 000?
Non, beaucoup plus.
Beaucoup plus. Westeros, c'est vraiment
tout le
continent jusqu'au mur.
Ils sont tout petits, leurs armées.
Non, mais déjà, chez les Lannister, il y a au moins 500 000 personnes.
On est sur du...
Non, mais 5 000?
Non.
Bien plus?
Sur du...
27,5 millions.
C'est pas mal, mais il y en a plus.
35 millions.
35 millions, pas mal. Entre 35 et 40 millions et selon toi, les estimations, car ça a été estimé par des économistes qui ont ouais. regardé.
En c'est un peu proche du Royaume-Uni.
En fait, ils sont partis très précisément de... Parce que c'est précisé, et dans le livre et dans la série, le nombre de soldats qui sont déployés en fonction des différentes provinces. Et du coup, ils ont fait une extrapolation.
C'est un peu de la flûte, hein. Ça pourrait être 27,5 aussi.
Ça pourrait être que
en fait, entre 35
soldats,
et 40, il y a une grosse différence. Quoi,
ouais. Non, mais ils ont dit, ouais. Voilà, c'est 40 à 5, ou 5, à 5 millions.
Et 3 dragons.
35 et 40. Et 3 dragons. Ou, peut-être
ou plus.
Plus que, peut-être plus,
ou
que,
moins.
Plus que 2, on ne sait plus.
Ah, attends.
Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Bravo à tous. Fini de jouer, on continue. Il y a quelques semaines, dans nos petits canaux de discussion entre membres de cette auguste émission, on a bien ri en découvrant sur le fil Twitter de nos collègues de Netherland cette petite perle.
Dois-je demander une conférence par enseignement ? Le plus tôt sera le mieux.
Je dois revenir à la classe.
Vous êtes suspendu, Thomas.
Il s'appelle Thomas en plus, le mec. Et il s'agit après, en quête de la version doublée, j'ose à peine prononcer ce mot, en français, d'un film argentin baptisé Emballage Lourd. Déjà, les mecs qui sont allés cliquer sur le film qui s'appelle Emballage Lourd, bravo. Disponible jusqu'à il y a peu sur la plateforme Prime d'Amazon. Je dis jusqu'à il y a peu parce qu'après avoir bien fait rire les internautes français, le film ainsi qu'un autre souffrant du même genre de doublage robotique ont été géobloqués par la plateforme de VOD qui évoque une cagade du côté d'un de ses fournisseurs. Bref, au-delà de la tambouille interne des fonds de catalogue des Prime, Netflix et consorts qui mériteraient un sujet à part, ce qui nous a poussé à nous interroger, c'est ce que ça ouvre comme perspective pour le cinéma. Est-ce que c'est pas finalement un galop d'essai, certes raté, mais annonciateur d'un temps pas si lointain où une partie de la production ciné, comme le doublage, sera fait de façon automatique? Stéphane, c'est un peu ce qu'on s'est dit.
Bah, en fait, c'est surtout qu'on part du principe qu'à partir du moment où les voitures vont exister, hein, elles sont mises en circulation vraiment l'an prochain, si j'ai bien compris. À partir du moment où tu peux aller dans un supermarché Amazon pour sans aucun vendeur et où tu te fais livrer en fait des paquets par les drones, je pense que c'est une des suites logiques en fait qu'à un moment donné
la culture y passe aussi.
Voilà, mais maintenant c'est quelque chose qui existe même dans notre quotidien, on s'en rend pas forcément compte normalement pour si on part sur le principe qu'en fait que on va dire plus ou moins on automatise entre guillemets la cinématographie. Bah, en fait, on en a un exemple tous les jours sur Facebook, par exemple. Quand en fait, Facebook vous propose votre vidéo d'amitié avec ça fait 10 ans que vous êtes ami avec Bidule, tu vois. Et en fait, il te met tout un petit truc avec une musique et quatre photos et éventuellement un bout de film ou je sais pas quoi. Bah, c'est en fait une IA qui a plus ou moins est allée chercher les trucs sur lesquels t'as eu le plus de likes, le plus de machin, et en fait, qui a fait un petit montage à la con. Et voilà. Alors évidemment, ça a l'air de rien hein, comme ça, mais globalement, c'est du montage quoi. Donc il y a 15 ans, il fallait se faire chier à le faire en fait, voilà, et ils mettent tout son goût artistique dedans quoi. Et là, en fait, c'est calé. Alors évidemment, on extrapole beaucoup. L'idée, c'est que quand on sait en fait que la société dans laquelle on vit, en fait, elle va dans une logique où il y a énormément de métiers qui vont être j'aime pas utiliser le terme automatisé parce que fondamentalement en fait ça va vraiment être une question de d'intelligence artificielle qui va vraiment en fait prendre le relais.
Oui, c'est pas juste un robot.
Voilà. Mais en fait, il faut préciser. Les cinéphiles en fait, tu dis intelligence artificielle tout de suite, tu penses à Skynet. Hein, c'est autonome, tout va bien, tu vois, c'est génial. Et en fait,
tout va pas bien, mais
justement en fait, ils partent tout seuls dans leur délire, tu vois. Oui. Pour l'instant, une intelligence artificielle, c'est juste que tu le nourris aussi. Hein, oui. Donc globalement, plus elle va apprendre. Et mieux elle va savoir faire la tâche qu'on lui demande de faire. Donc là, globalement, bon, ce genre de vidéo, c'est effectivement drôle, à mon avis. Il n'y a que les mecs de Netherland pour le regarder en entier, hein, parce que je pense que c'est... Enfin, moi, au bout de deux extraits, j'en pouvais plus, quoi. Effectivement, tu te dis, il n'y a personne qui allait vérifier au bout de la chaîne de fabrication, en fait, si ça tenait debout, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui a lâché le truc, qui l'a validé sans se faire chier, quoi. Voilà, et c'est un truc, si tu vas sur YouTube et que tu cherches parfois certaines infos obscures, bah ça t'arrive de tomber sur plein de mecs qui ont produit des vidéos avec ce genre de doublage de voilà. Et si tu fais attention, bah par exemple tout bêtement au traducteur automatique de Google, comment il fonctionnait il y a 15 ans et comment il fonctionne maintenant, bah, il y a quand même beaucoup beaucoup plus de oui. Voilà. Donc tout ça c'est des intelligences artificielles qu'on a nourries, qu'on a doublées. Donc oui, effectivement, on peut partir du principe que ce genre de doublage peut finalement arriver à devenir crédible. C'est-à-dire vraiment à partir du moment où j'imagine qu'on nourrit une intelligence artificielle du talent de je sais pas moi de Laurence Olivier et de Steven Seagal et puis voilà en fait on combine les deux et on se retrouve avec une super doublage quoi, un super acteur qui fait toutes les voix voilà je pense qu'il y a on peut après présumer du manque d'âme que ça finira par avoir en fait mais il faut savoir que enfin dans l'absolu de manière générale l'industrie cinématographique elle se repose beaucoup en fait sur les IA bon déjà à la fois dans la façon de comment dire marketer bon il y a le fameux algorithme de Netflix hein, c'est, ça participe du truc y compris en fait dans certains types d'effets spéciaux en fait quand il s'agit de je sais pas moi par exemple dans la performance capture, quand il s'agit de creuser le visage de Thanos, en fait, à un moment donné, les mecs développent des toutes petites intelligences artificielles en fait, qu'ils combinent et qui sont censés aller chercher les rides de Josh Brolin pour en fait, les recalculer sur le visage de Thanos pour que ça soit fait, on va dire, entre guillemets, que soit égalisé. Quoi. Donc, il y a tout un tas de petits trucs imperceptibles qui se voient. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait semblé assez étonnant constat. Mais c'était George Miller, en fait, qui, à l'époque de Happy Feet 2, quand il bossait encore avec... il avait une espèce de boîte transmédia qui s'appelait Doctor D Studios, en fait, il a dû fermer après le beat de Happy Feet 2, et avant de se lancer dans Mad Max 4, qui, en fait, il se tapait un énorme trip sur les jeux vidéo, et sur les intelligences artificielles, en fait, dans les moteurs de jeux, quoi. Et en fait, il était persuadé que cette technologie-là, on pouvait la pousser beaucoup plus loin pour créer, en fait, des vraies interactions dans des films. Par exemple, on connaît le logiciel Massive en fait qui avait été créé par Weta à l'époque pour Le Seigneur des Anneaux où en fait l'idée c'était de créer des foules gigantesques mais c'était plus ou moins en fait des mouvements similaires en fait chaque personnage. Là l'idée si tu veux c'est qu'en fait sur une foule similaire on pouvait créer en fait X mille comportements différents juste en passant par en créant des mini IA qui étaient dans les logiques en fait qui étaient des boucles de programmation en fait qui sont faites dans les logiques des jeux vidéo. Alors moi ça m'avait vraiment surpris à l'époque en fait qu'il ait cette réflexion là et j'en ai profité pour parler avec des mecs parce que j'ai le fruit du hasard voulait que j'étais en Nouvelle-Zélande pour sur le tournage d'un petit film néo-zélandais une petite trilogie quoi à l'époque et j'ai posé la question aux mecs de Weta quoi et eux-mêmes étaient là en train de dire moi on voit pas trop l'intérêt pour l'instant quoi mais bon j'imagine que encore une fois c'est une question de conceptualisation ce que j'entends par là c'est est-ce que en fait on peut partir de ce principe là s'intéresser à ce principe là en fait qui est développé dans le jeu vidéo depuis un moment et est-ce qu'on peut finalement le pousser à l'extrême dans le cinéma et comment est-ce qu'on peut le contrôler et qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement pour que ça donne quelque chose de relativement inédit, substantiel et surtout, entre guillemets, pas automatisé, mais en tout cas, créer, insuffler en fait une vie et une, entre guillemets, forme de créativité en fait dans la façon de créer les effets spéciaux qui serait une créativité, enfin une vie quasi autonome quoi. Enfin voilà. Donc je sais qu'on en est vachement au balbutiement de tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de vraiment se pousser, progressivement. Mais progressivement et surtout vraiment par petites touches, par mini-programmes sur mini-programmes qui font que, on y vient, quoi.
Julie ?
Non mais d'ailleurs pour revenir juste sur le doublage d'Amazon, moi j'ai ma petite théorie là-dessus, c'est ma préférée, c'est que c'est un employé d'Amazon, parce qu'ils sont quand même connus pour leurs conditions de travail déplorables, qui était tellement énervé, qui s'est dit allez vas-y je vais ternir leur réputation, parce que ça me paraît quand même aberrant de me dire que ce truc soit passé quoi, parce que...
Moi je trouve ça tellement logique avec leur fonctionnement de manière générale que...
Ah ouais non mais c'est quand même la méga honte quoi. Et justement en Irlande, ce qu'ils disaient là-dessus que je trouvais plutôt intéressant, c'est que... Alors, ça peut être marrant quand tu regardes quelques scènes par-ci par-là, mais ça n'aura jamais le charme d'un vrai nanar doublé avec des vrais acteurs, aussi mauvais soit-il, quoi. Et ça, pour le coup, tu vois, les deux extraits, là, donc de ces drames sociaux doublés, ça m'a bien fait marrer deux secondes. Et c'est clair que c'est facile de se moquer, effectivement, parce que, comme tu dis, on n'en est qu'au balbutiement. Alors après, j'ai un peu de souci avec l'emploi du terme IA, parce que pour moi, ça implique quand même une certaine autonomie. Et là, pour l'instant, on est plus dans une automatisation des synthèses vocales et tout, mais...
Mais c'est ce que tu leur nourris à la fin, hein. Ouais, c'est ce que tu leur donnes qui fait qu'en fait ils vont exponentiellement...
Pour pouvoir être en mesure d'évoluer plus tard, ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant, parce que moi, j'avoue, Google Translate, ça me faisait doucement rigoler au début. Maintenant, je me rends compte que, que ce n'est pas si mal, enfin, que parfois, ça peut faire le job, enfin vraiment, genre... Et c'est pareil pour moi, le truc qui m'épate en termes d'automatisation, c'est les sous-titres générés automatiquement par YouTube. Alors, certes, ça peut être vraiment catastrophique et très drôle, mais il y a des moments où, pour peu que tu aies un anglais avec un accent typique de la BBC, ils vont réussir à faire une espèce de synthèse texte quasi parfaite, quoi.
C'est la preuve que ça s'affine.
Donc effectivement, oui. Je pense qu'il y a des raisons, effectivement, de s'alarmer, je sais pas, mais en tout cas de se dire que ça a vocation à être affûté et que peut-être à un moment on arrêtera d'en rigoler. Là, parce qu'il faut quand même dire que le doublage Amazon, c'était foiré d'avance, parce que non seulement c'était, alors si je ne m'abuse, c'était donc un doublage, mais donc c'était une traduction en anglais, et je crois que la voix, elle avait été configurée pour parler, elle n'avait pas été configurée pour parler en français, donc du coup elle prononçait les Z, enfin ça donnait n'importe
comme,
quoi.
Ouais. Comme la marionnette de Chirac dans le bébé de show. Une référence actuelle.
Le bébé de show. Ça jouait énormément au côté
du film. Mais t'étais même pas né.
Je suis né dans les années 50. Pierre Kenson.
Non, parce que ce que vous dites, je suis d'accord. Parce que déjà, il y a
merci.
Non, sympa. Mais sur l'idée que l'IA, ça
surtout
va.
Surtout sur Chirac.
Ça va, oui, c'est ça qui m'a. J'ai été perturbée par le bébé de show d'un seul coup, j'ai vu des images et tout.
Je te l'ai vendu avec Chirac.
Et non, parce que l'IA, en tout cas, est déjà plus ou moins utilisée dans l'art et pas seulement. C'est-à-dire pour ces performances techniques dont vous venez de parler d'une certaine façon, ou d'automatisation ou autre. Mais même, on fait de l'art avec l'IA, en fait, déjà. Moi, je me souviens de cette vidéo qui était incroyable, c'était un direct de deux Google Home qui discutaient l'un avec l'autre, et on les regarde et ils discutent l'un avec l'autre, c'est une sorte d'art presque d'installation en fait. Et au début tu te dis, ah c'est marrant, sauf qu'au bout de 4 heures que t'es encore planté dessus, tu fais, c'est quand même bizarre que je suis restée plantée à écouter deux IA en train de parler l'une avec l'autre, c'est un peu chelou. Et il y avait ce truc, j'avais été voir un studio de VR et qui travaillait sur un projet de faire un film plus ou moins, où en gros c'était une expérience VR du moins, où c'était une IA qu'on faisait rêver. Donc on lui montrait des images, etc. Puis d'un seul coup, on lui demandait de rêver. Et donc ce qui était extrait, c'était le rêve de l'IA. Donc là, ça va super loin, parce que d'un seul coup, on lui demande même plus de penser, on lui demande de rêver. Donc là, il y a quand même on est à un autre degré d'humanisation de la machine qui est quand même... moi, ça se trouve qui est à la fois complètement fascinant, mais terriblement flippant derrière. Et j'aime bien l'idée que si ces technologies-là, qui pour l'instant peuvent servir ou desservir dans le cas de en l'occurrence de ce fameux doublage, qui était quand même pas une grande réussite, mais si ça peut servir, on peut aussi créer à partir de ça. Et je trouve que c'est intéressant qu'on soit déjà dans cette idée de création à partir des IA, et à quel point, à un moment donné, ceci va devenir de l'art, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des... Je saute un peu du coq à l'âne, parce que je reviens, on parlait des voix, évidemment, pourquoi pas le mélange Laurence Olivier et Steven Seagal, mais c'est vrai que même déjà ce qui est créé à l'ordinateur... Laurent Seagal. Mais c'est vrai que ce qui est déjà créé, c'est des visages qui n'existent pas. Oui. Par exemple, il y a des visages qui sont créés par des IA à partir de plein de photos de plein de gens, et qui créent des visages qui ont l'air tout à fait... j'étais cachée par une bouteille.
Pas de publicité sur le plateau.
Je me sentais toute fine d'un seul coup. Non, mais l'idée, c'est que voilà, on crée des visages qui littéralement n'existent pas. Et je trouve que c'est assez fascinant, parce qu'à quel moment on pourra complètement... Parce que là, c'est en photographie, mais on pourra carrément les animer, et que d'un seul coup, peut-être on deviendra fan d'acteurs qui n'existent pas, qui n'ont pas d'existence du tout.
C'est déjà une des portes un peu ouvertes par le deepfake, notamment, David.
Ouais, bah en fait...
Je te lance sur un sujet comme
j'ai
ça.
J'ai vu comme tu m'as
un peu vénère, tu vois.
Je me suis senti comme un nageur olympique sur le plongeoir. Non, mais effectivement, un des principes de l'intelligence artificielle qui est utilisé dans pas mal de choses, et notamment le deepfake, c'est en gros, tu utilises deux programmes informatiques qui se parlent. Un qui, par exemple, si on prend l'exemple qui est bien parce qu'il est simple, l'exemple des faux visages, on a des programmes informatiques qui savent créer des visages, et on a des programmes informatiques qui savent ce que c'est qu'un visage humain. Et donc, en gros, tu fait faire au premier programme, tu lui fais réaliser des visages. Le deuxième va vérifier ceux qui ont l'air humains et va faire ce tri. Et au final, ceux qui vont être sélectionnés vont être très très proches de ce qui ressemble à un vrai visage humain. Et en fait, ce genre de mécanisme, tu peux l'appliquer à vraiment plein de choses. Tu peux faire en sorte que, je sais pas, le mouvement d'une foule générée par ordinateur soit réaliste, que une voix ressemble à une vraie voix, que le visage d'un acteur disparu ressemble vraiment à cet acteur dans ses mouvements, etc. Et ça t'ouvre plein de possibilités. Et en fait, et ça, moi, ça me paraît une des formes de l'usage de l'intelligence artificielle un peu poussée qui va être le plus rapidement utilisé, c'est en fait comme un outil pour ceux qui gèrent les effets spéciaux, où en gros ils vont pouvoir se délester sur les machines d'énormes masses de travail qui étaient quasiment impossibles humainement à réaliser et qui deviennent de plus en plus accessibles et qui font que de plus en plus, là il y a des films qui sont sortis ou qui vont sortir où on voit des acteurs hyper rajeunis de manière très réaliste et les progrès vont aller de plus en plus vite, notamment grâce à des forces de calcul. On va en fait à mon sens étendre le champ des possibles au cinéma, et ça va d'abord être la première étape. Après, si on commence à rêver vraiment beaucoup plus loin et à être quasiment dans la science-fiction, mais en fait ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit, on peut effectivement se pencher sur l'hypothèse d'un film entièrement réalisé par un ordinateur, écrit,
mis en scène. Il y a un court-métrage écrit qui est sorti il y a 2 ans.
Effectivement, donc ça, de toute façon, en fait, après, d'un point de vue purement artistique et en art contemporain, en fait, on peut se dire qu'on y est déjà. D'ailleurs, moi, je joue Gmail, il tape mes mails avant moi.
Il tape mes mails,
j'y trompe. Il sait ce que je vais dire. Donc ça paraît vraiment demain, en fait, ce genre de choses. Mais la question, c'est... Voilà, quand est-ce qu'on va basculer à un niveau vraiment industriel ? Est-ce que dans les 10-20 années à venir, on va voir un blockbuster qui va réaliser des millions d'entrées et qui aura été entièrement conçu, imaginé par une machine ? On n'est pas loin.
Mais après, ça pose plein de questions, en fait, c'est ça, où je reviens, j'ai l'air d'être dans un trip sociologique ou je sais pas quoi, ou comportementaliste ce soir, mais ça va poser plein de questions quand même derrière, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné que de jouer ? Qu'est-ce que ça veut dire d'incarner ? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être un acteur ? Est-ce qu'un acteur, ce n'est plus qu'une voix sur quelque chose qui est faux, ou ce n'est plus qu'un corps avec une voix qui est fausse ? Quelle est la part d'humanité ? Enfin, ça va vraiment poser beaucoup de questions assez profondes, en réalité, d'un seul coup aussi, de qu'est-ce que c'est que de vieillir ? Si d'un seul coup, on peut être tout le temps rajeuni, quel est le sens de l'ordre du monde ? Enfin, moi, je sais pas, je trouve que ça pose des questions. C'est qui vais-je, où suis-je, que deviens-je, quoi ? Enfin, il y a un truc, ça va, ces questions-là, qui sont à la base des capacités technologiques, des capacités, des réflexions issues de l'homme, en soi, à la base, dont l'intelligence artificielle va prendre le relais, à quel moment on perd le contrôle et l'humanité de tout ça, en fait. Et je trouve que ça mène à des questions, des foisonnements philosophiques qui vont être chouettes dans les bouquins et dans les cours de philo à l'école en 6e B.
Et même dans, philo, même dans les films, c'est le sujet d'ailleurs du congrès d'Harry Fullman avec Robin Wright qui interroge complètement ça et la possibilité d'une actrice qu'on dématérialise et voilà. Et après, de manière beaucoup plus pragmatique, et ça c'est la même chose que pour les voitures qui se conduisent toutes seules, ça va aussi poser des questions juridiques, en fait, d'un point de vue éthique et moral, et d'un point de vue de droit aussi, à partir de quand on peut faire jouer tel acteur dans un film sans qu'il ait signé ou pas. Enfin, il y a plein de possibilités, mais aussi tout un encadrement juridique autour de ça, quoi.
Et Dieu dans tout ça.
Mais il va rentrer dedans. Est-ce que c'est une IA ?
C'est une IA, déjà, quelque part. Dieu est une IA. C'est superbe. On va enchaîner, du coup, avant de partir trop loin dans la métampsychose. Mais évidemment, avant ce prochain sujet qui nous arrive, il y a encore un petit jeu. Show me what you got. N'essaye pas de lire les réponses sur mon ordinateur.
Mais je sais que tu les mets pas. Attends, depuis le premier de nos ciné-clubs, en fait, je me mets à côté de toi exprès pour.
Je ne mets toujours pas les réponses sur ma feuille. Il n'y a pas marqué. Comme d'habitude, ce sera donc pour le plus grand plaisir de David Honorat, un jeu musical. C'est quasiment une tradition puisqu'on va causer de Cannes dans un instant. Ce sera donc un blind test spécial Croisette. On l'a déjà fait par le passé. 5 extraits de 5 BO de films ayant décroché la Palme d'Or au cours des décennies passées. Oula. Comme je suis sympa, je les ai laissés dans l'ordre chronologique quand même. Ça donne un petit indice et on commence dans les années 60. Allons-y.
La Dolce Vita ?
Non. C'est italien, effectivement.
8 et demi ?
Hein ?
8 et demi. 8 et demi.
Pas du tout.
Non, j'avais pas du tout ce qu'il y a eu la Palme d'Or.
Musique de Nino Rota.
Le parrain.
Le parrain, non, pas du
tout. Il a pas eu la Palme d'Or non plus.
Il a pas eu la Palme d'Or. Il est pas italien.
En plus.
Non, mais laisse tomber, j'ai entendu.
Je l'aime, mais...
C'est le guépard.
Ah ouais, c'est
qu'on dit. Voilà. Mais non, mais Nino Rota, c'était bon, du coup. Ça marchait, ça marchait.
Ouais, non, mais...
Deuxième extrait.
Apocalypse.
Oui, voilà. Apocalypse.
Mais c'est trop facile. Non,
c'est ça.
T'as pas fait que des trucs.
Ouais, j'aurais pu le trouver celui-là.
Celui-là, t'aurais pu le trouver.
Est-ce qu'il y a une double palme d'or cette année-là?
Oui, une double palme d'or.
Le crabe tambour.
Non, juste le tambour.
Le crabe tambour, c'est Roche sur 2 ans avant.
Le crabe maga. Non, j'ai entendu ça, j'ai pas compris.
De pire en pire. Troisième extrait. Vas-y.
Il y a Amélie Poulain, j'ai eu peur.
Non. Bah, c'est très Amélie Poulain dans la vibe, c'est sûr.
C'est les années 80, là, pour le coup.
Underground.
Ah,
Papa est en voyage d'affaires.
Papa est en voyage d'affaires, des meilleurs coussins et de ça. Bravo, bravo.
Mon premier point en blind test.
C'est la première fois que t'as un point en blind test, je pense, à l'histoire de cette émission. Quatrième extrait.
Facile.
Hyper facile.
Oui, oui.
La piano. Le piano.
La leçon de piano.
La leçon de piano,
voilà. Exactement.
Le seul pain féminine.
Tout à fait, de Jane Campion. C'était en 93. Allez, le dernier, cinquième extrait.
Ah, le vent se lève.
Oui.
Waouh.
Le vent se lève, effectivement, de Ken Loach. Palme d'Or en 2006. Bon, pas mal, vous êtes bien défendu, hein, à part le premier où vous m'avez fait peur un peu. Je me suis dit, ça va être hyper laborieux.
C'est clair.
Mais en fait, après ça a été, c'était pas mal. Allez, prochain sujet. Joie, bonheur pour certains, angoisse, fatigue, préventive pour les autres, indifférence polie pour pas mal de monde. C'est déjà bientôt l'heure du Festival de Cannes. Nos ciné, il sera comme tous les ans depuis maintenant 3 éditions, je crois, David, déjà.
Ça va être la troisième édition. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire.
C'est
mais...
exactement ce que j'allais dire, c'est marqué sur ma feuille. Tu arrêtes de précéder. Donc effectivement, tu y seras, toi David, avec Perrine et plein d'autres camarades de la bande étendue de nos ciné. Donc on est effectivement en cours de réflexion sur la formule exacte que vont prendre ces émissions. En attendant là tout de suite, on va causer un peu de ce qui nous attend en termes de cinéma, la compétition, le jury. Par où vous voulez commencer, Perrine, vous qui êtes à fond là-dedans en
fond ce moment,
le jury qui vient de tomber.
Le jury qui vient de tomber, parce qu'on l'a attendu, ce jury, on n'y croyait plus, on pensait qu'Iñárritu serait tout seul à juger les films, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée.
Que ça taille.
Je suis pas fan. Mais donc voilà, on a Iñárritu en président. C'est vrai que c'est un jury qui est plutôt intéressant en termes de... particulièrement en termes de réalisateur, j'ai envie de dire. On a Robin Campillo, qui donc avait marqué avec son 20 battements récemment La Croisette. Il y a Yorgos Lanthimos, qui est un peu un chouchou cannois par excellence et sûrement un des meilleurs réals actuels. Pavel Polikowski, qui n'en peut plus des succès depuis Ida et Cold War, qui étaient présentés l'an dernier. Alice Rohrwacher, qui elle aussi est une vraie comment dire, un vrai bébé cannois en soi. Après, il y a des personnages un petit peu plus étonnants, j'ai envie de dire, comme Enki Bilal. Oui. J'avoue que
c'est étonnant, c'est le mot.
C'est qui Bilal,
non, mais c'est pas mal parce que c'est un retour. Enfin, il y a un acte manqué dans ce que j'allais dire, mais j'allais dire que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait venir des non-cinéastes. Alors, le truc est qu'il a fait des films, il aurait mieux fallu les oublier. Oui, on le connaît plus pour son travail de dessinateur et de bande dessinée. Ouais.
Non mais voilà, il y a Elle Fanning qui est en soi une actrice, je vais pas dire qui monte parce que c'est bon, ça fait un moment qu'elle est là quand même maintenant. Et voilà, après c'est sûr que voilà, Maimouna Ndiaye et Kelly Richards. Donc voilà, mais on est dans cette idée du jury, j'allais dire équitable. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, je voulais dire.
Comme le commerce équitable,
je voulais dire dans l'équité.
Paritaire.
Pourquoi équitable? Je ne sais pas. Parce que plus de vocabulaire, parce que fatigue. Voilà, on est dans un jury paritaire, dans cette idée, encore une fois. Enfin, c'est un moment qu'il est paritaire quand même, mais l'idée que Cannes a signé la charte 50-50 est vraiment dans cette idée de promouvoir, en tout cas, la place des femmes dans le festival. Donc c'est vrai qu'on est là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des noms qui sont intéressants et c'est marrant parce qu'on se dit, bah, si Yorgos et Pavel sont là, c'est parce qu'ils n'avaient pas de film, en fait. Sinon, techniquement.
Et heureusement en compète.
Ah non, pas heureusement. Ah non, Yorgos si, partout, tout le temps.
Moi, je les préfère tous dans le jury qu'en compétition, parce que c'est globalement, c'est quand même des films très chiants, Kelly Richard en particulier.
Kelly Richard, je suis d'accord, ouais. Mais pas Yorgos. Voilà. Pas Yorgos.
Yorgos, bon.
C'est mon idole.
Alors déjà, c'est Yorgos.
Yorgos.
Okay, merci. S'il vous plaît.
C'est vrai, là, on a un vrai.
C'est un compatriote. Voilà. Et pour ce qui est de la compétition du festival, on a eu plusieurs questions, notamment sur la présence... ou pas de Tarantino qui reste un grand mystère.
Si bien voilà. C'est toujours pas. Hein.
En fait, je pense que donc clairement il a une place réservée.
Tout est réservé. Hein, la soirée, les chambres d'hôtel, c'est bon.
La place de parking, tout est
tout
bon.
Tout est bon.
Mais c'est clair. En gros, s'il arrive à finir le film à temps et à être prêt, c'est sûr qu'il y sera. Après, faut pas de son côté, il a aucun intérêt à se précipiter. Pour rien, d'autant qu'il tient à viser une sorte de perfection dans sa filmographie et il a dit depuis quelques temps vouloir s'arrêter à 10 films et c'est son 9e, donc je pense qu'il va pas précipiter les choses. Oui. Après, moi je trouve qu'il y a globalement une compétition qui sur le papier, sur les noms, est très alléchante et clairement, si celui de Tarantino vient s'y ajouter, ça passe dans une dimension... vraiment supérieure et vraiment si on regarde sur les 10 dernières années,
on est sur une des meilleures compètes.
C'est une des meilleures sur le papier, oui, en tout cas parce que à la fois il y a des grands noms, des gens qui sont très régulièrement à Cannes et puis des débutants ou semi-débutants qui donnent plutôt envie ou en tout cas dont on a envie de découvrir les nouveaux films, notamment les Français. Que ça soit Mati Diop, Justine Triet ou Ladjli. Je retrouve en plus certains chouchous dans les plus confirmés, notamment Almodovar, moi, qui m'a quand même assez rarement déçu. On a aussi Bong Joon-ho qui revient.
Okja.
Après l'événement Okja, qui était un film Netflix, là, il revient avec un film pas Netflix. Donc
qui a l'air un peu plus axé à comédie, mais...
Peut-être mieux pouvoir tirer son épingle du jeu. Tout ça fait tout
envie. Il y a Ken Loach, ça fait... Enfin, Ken Loach, c'est un... Comment dire
C'est sa 14e compétition,
voilà, c'est-à-dire qu'on est habitué, mais en même temps, c'est toujours un plaisir de voir Ken Loach là-bas. Les frères Dardenne, je dirais pas que c'est toujours un plaisir renouvelé, mais en soi, ils viennent avec les meubles, donc c'est pas étonnant.
Même Terrence Malick,
ils habitent dans le palais festival. Oui,
non, mais enfin, en même temps, il faut renouveler. Hein, Manuel de l'Oliveira, bon, il est parti, donc il reste une place.
Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, on a cette année cette idée de rencontre des générations et de gens qu'on avait envie de voir, comme Jessica Hausner aussi, ou moins, hein, potentiellement, comme Cornelius Pourmbouillou.
Ah, moi, je suis très fan de Pourmbouillou.
Ouais, tu vois, parce que tu l'as jamais en interview.
Tu l'aimes pas, en vrai. Non, il a l'air sympa, ce mec.
Mais non, mais voilà. En tout cas, cette année, c'est vrai qu'elle est un peu palpitante, elle donne un peu envie. On est content d'y aller pour voir ça.
J'ai l'impression que c'est une auto-mérance.
Non, pas du tout. Non, vraiment, pour le coup, sincèrement, c'est cette compétition. J'avais un peu peur. Et puis, il y a eu la conférence de presse, ce grand moment. Et je crois qu'à la fin de la conférence de presse, beaucoup de gens ont fait... Ah, enfin, c'est bien. Non, mais pas enfin, c'est bien. C'est pas que c'était nul, nul de chez nul, mais il y avait un coup à jouer cette année. C'était important, en fait. Parce que Cannes, depuis quelques années, a toujours eu des noms intéressants, etc. Mais se faisait taper, en fait, finalement, par Venise et Toronto, qui, eux, sont sur la trajectoire des Oscars, en fait. Et donc, même si, finalement, Cannes n'avait rien à prouver par rapport à Berlin, par exemple, où Berlin, c'est toujours c'est un marché très intéressant pour les professionnels, mais en termes de films, c'est froid. C'est pas extraordinaire. Cannes avait un coup à jouer de se dire non, non, si, on continue à exister face à Venise et Toronto qui, eux, sont là quasiment dans une démarche marketing, en fait. Il y a vraiment ce truc où on se lance à Venise et c'est direct vers le mois de février pour les Oscars. Donc c'est vrai qu'il y avait un vrai coup à jouer et je pense que cette année, Thierry Frémaux et son équipe de sélection, en tout cas, ont eu cette intelligence-là et l'ont bien joué parce qu'ils ont rappelé à quel point ils étaient et ils sont toujours le plus grand festival du cinéma au monde. Et c'est toujours ce festival-là, c'est le plus grand marché, c'est le plus grand festival. Donc, je trouve que cette année, il a bien rappelé c'est qui le taulier, quoi.
Oui, parce que même sur les noms qu'on n'a pas encore cités, c'est quand même assez solide. Il y a le Brésilien Kleber Mendoza Filho, c'est son troisième film et ses deux premiers, moi je trouve, étaient extraordinaires.
Super, puis à Cannes, ils ont fait à chaque fois beaucoup de bruit.
Voilà, on n'a pas cité non plus Xavier Dolan, bon, qui moi, à mon sens, vient un peu de se planter la gueule, mais voilà, arrive avec un nouveau film. Il y a aussi Jim Jarmusch.
Il fait combien de films, ce mec?
Je pense qu'il
en a sorti 4 ces 3 dernières
années. Il a 30 ans, donc là, c'est un peu il arrive sur ses vieux jours.
Grosse attente sur Jim Jarmusch.
Non, mais Jim Jarmusch, il m'a pas...
Le film de zombie de Jim.
Si tu veux, il m'a pas spécialement ému depuis Coffin City Rest, donc c'était quoi, 2003 C'est juste que là, on va parler de Jim Jarmusch de The Dead Don't Die, mais c'est que c'est un tel pot-pourri, en fait, d'acteurs, un mélange de célébrités favorites d'Internet, de vieux musiciens et tout, que forcément, je m'en méfie, mais ça se trouve, je ne demande qu'à être trompée, quoi. Mais alors, je voulais juste vous poser une question, parce que du coup, moi, j'ai un peu ce rapport indifférence polie par rapport à Cannes, dont je vais regarder les films qui m'excitent une fois que donc, les personnes qui y sont allées ont fait le tri pour moi. Ce que vous allez faire pour moi cette année, donc. Et en quoi, donc, cette année, c'est plus excitant que, par exemple, ces 5 dernières années? C'est quoi la lassitude que vous aviez ces dernières années, quoi?
Alors, lassitude, moi, j'avais pas particulièrement de lassitude. Après, vraiment, je pense qu'il y a un côté plus solide sur la compétition qui fait que... Mais encore une fois, c'est que sur le papier. C'est-à-dire que typiquement, en fait, des noms qu'on connaît moins, parfois, c'est justement ça qui peut être la très bonne surprise parce que derrière, t'as un film qui se retrouve pas là par hasard.
Ouais.
Et à l'inverse, un nom un peu ronflant qu'on a l'habitude de voir, ça peut donner un film un peu relou. Par exemple, Ken Loach, moi j'ai un petit peu peur là sur ces dernières années, ça m'intéressait. Moi, Jim Jarmusch, je suis comme toi, même je dirais que moi il m'a toujours saoulé, mais donc voilà. Mais
il y a Arnaud Desplechin, Roubaix, mais... une lumière.
Alors, moi,
c'est chez moi et c'est très bien.
Moi j'aime beaucoup Desplechin,
mais c'est bien Desplechin.
Mais voilà, en fait, quand tu arrives dans un truc où mine de rien, même le nom de Terrence Malick passe presque inaperçu dans la liste, ouais. ça veut quand même dire qu'il y a un ensemble qui est très attractif. Après, je le redis, là où ça change vraiment de dimension, c'est s'il y a celui de Tarantino qui s'y ajoute, quoi.
Ouais. Mais là, on sait qu'il y a potentiellement le Kechiche qui va arriver. Normalement, il est quasiment, tout le monde l'annonce, le Kechiche de 4 heures. La suite de Make to My Love devrait être là. Il y a la rumeur persistante sur le Nakash Toledano. Aussi, le nouveau Nakash Toledano qui voilà, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, il manque des films. Là, toute la compétition n'est pas encore annoncée. Non, ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, cette année, on mélange, donc on l'a dit, les noms très ancrés et les nouveaux qu'on attendait de voir arriver. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a l'impression d'une sensation de renouvellement. Parce que ce qui était un peu Cannes, ce qu'on lui reprochait, c'était cette fameuse idée « faut la carte ». Faut la carte de Cannes, c'était un peu toujours les mêmes qu'on avait l'impression de voir. Et c'était un peu vrai aussi. Et là, d'un seul coup, il y a encore les mêmes, il y en a certains, mais ceux qu'on est content de voir. Et en même temps, on a voilà, les petits nouveaux. Il y a cette sensation de diversité, de renouvellement. Et en effet, il y a aussi de diversité des genres. D'un seul coup, on n'a pas l'impression qu'on va regarder 20 fois le même film. On va avec le cinéma de genre, avec Parasite de Bong Joon-ho, ou avec le Jim Jarmusch, ou avec potentiellement le Tarantino qui va frôler sa manière de traiter le genre à lui. On va va sur des films, on va aller sur de la comédie aussi. On va, s'il y a le Nakash Toledano, on va sur de la comédie. Justine Triet, il y a une forme de comédie chez elle aussi. Donc en fait, on voit ça tente plusieurs choses, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas ressenti en fait. Et c'est ça qui crée l'excitation, c'est que c'était des noms qu'on avait peur de voir partir finalement pour Venise, pour d'autres raisons. Et que d'un seul coup, on montre un attachement à Cannes, et c'est ça qui est un petit peu, ouais, qui est un peu excitant cette année.
On n'a pas cité d'ailleurs Céline Sciamma, qui est habituée de Cannes, mais qui est pour la première fois en compétition, et qui pareil.
Tête de Stéphane, c'est génial.
Non, bah, c'est... Et on a oublié de parler de.
Non mais c'est vrai, mais Céline Sciamma. Après c'est pas ta cam, il y a pas Steven Seagal dedans.
Au marché du film, voilà. Mais on parlait pas du marché du film.
Mais voilà, enfin en tout cas c'est moi c'est des cinéaste qui m'intéresse et que je suis content de retrouver.
Ouais, après, moi, il y a des trucs qui me saoulent. Hein. Alors, avoir l'épisode 4 et 5 de la série de Nicolas Winding Refn. Pourquoi l'épisode 4 et 5? Parce qu'il nous emmerde, visiblement. Moi, j'avoue que ça m'intéresse pas des masses. C'est bon, c'est pour regarder des néons et des gens qui sont à gueule. Moi, ça va me gonfler. Mais c'est juste que... Voilà, mais après, il y a des trucs que je suis content de voir. Le documentaire, un nouveau documentaire d'Azif Kapadia qui avait fait ce super documentaire sur Amy Winehouse qui s'appelait Amy. Et là, il revient sur un documentaire sur Diego Maradona. Bah moi, je suis hyper au taquet là-dessus. Rocketman.
Lui avait fait un film d'horreur pourri, lui, je me rappelle.
Azif Kapadia,
ouais. Non
c'était quoi?
On peut vérifier. Ouais, un film d'horreur pourri.
Azif Kapadia, elle avait fait un film d'horreur pourri.
Tu confonds pas avec le documentaire.
Non, je crois avec Buffy même.
Ça a failli passer inaperçu, mais non, j'ai entendu.
Tu m'as entendu. Merci.
Ben non, il a fait Senna, The Warrior, The Return.
D'accord.
Je sais pas. Non, voilà, il y a des gens qui donnent.
Avec Sarah Michel Gellar, ouais, c'est ça. Ouais.
C'était quoi?
Bravo.
The Return.
The Return.
J'en ai vu deux de ces films de ce mec, c'est pour ça que j'ai reçu le nom.
Mais voilà,
non, mais je voulais hijacker la conversation. Je voulais hijacker la conversation.
Il s'est recyclé dans le documentaire.
Tu l'as grave hijacké, c'est clair. Non, voilà, puis bon, moi j'ai envie de voir Elton John sur les marches en train de chanter du Elton John. Et si possible, potentiellement refaire le clip de I'm Still Standing qui avait été tourné à Cannes. Donc j'ai envie qu'ils me le refassent. Donc non, il y a
des.
Que pour moi. Donc non, c'est vrai, c'est juste qu'il y a un petit côté un peu événementiel. Si on fait plus la fête à Cannes, au moins on va peut-être faire un peu la fête dans les salles. C'est ça qui est sympa.
Oh, c'est beau.
C'est beau, c'était définitif.
C'est beau, Périne, c'est beau ce que tu dis.
Et puis sinon, il y aura Mickey et Dupieux. Par exemple, à la quinzaine, il y aura.
Ah, le dingue.
Il y a de l'animation aussi qui est arrivée.
Quelques trucs à voir par-ci par-là dans les autres sélections. Mais on en parlera dans quelques jours. Sous le soleil, espérons.
Ah oui, pitié.
De Cannes.
Dès le début du festival, on vous retrouvera tous les deux avec quelques autres pour ces nos ciné spéciales Cannes. On s'approche de la fin, vous pensiez y échapper, mais non, il reste encore un jeu.
Philippe, je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé!
Ça va mieux déjà.
Là, du coup, ça parle plus à ta cinéphilie, à toi, Stéphane. Celui-là, vous le savez, c'est mon préféré, hein, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version française, sa version dans la langue de Molière, sans synthèse vocale garantie. Celui qui trouve récolte évidemment notre plus grande admiration. Il y a deux extraits, on va passer d'abord le premier, si personne ne trouve, on passera le deuxième.
C'est pourquoi les jeunes hommes?
Pour avoir l'air plus américain.
Ah, Godzilla.
Ouais. C'est incroyable,
Godzilla. C'était trop facile. C'était Godzilla, effectivement. On va quand même écouter le deuxième extrait parce qu'il
fait plaisir.
Il est pas mal.
Est-ce qu'il y a d'autres survivants? Non, mais s'il y en a un seul. Il a eu beaucoup de chance.
Demande-lui ce qui est arrivé.
C'est Godzilla.
Ah, pardon.
C'est genre Reno.
Ah oui, non. Je crois qu'on était passé au deuxième extrait.
Dis-moi ce que tu as vu, grand-père.
Godzilla.
C'est Jean Reno qui se double.
Jean Reno s'auto-double, ouais. Parce qu'il y a des moments où il parle français quand même dans le
film. Tu vois, si tu veux vraiment faire un truc, tu prends le doublage de Blowout, par exemple, où Travolta est doublé par Depardieu. Et là, tu nous blouses tous, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Là, voilà, bon, il faut que tu prennes des trucs comme ça. Ou Henri V, tu vois, Henri V, Depardieu, il double aussi Kenneth Branagh.
Mais alors, du coup, que des films où c'est Depardieu qui double?
Mais par exemple, tu vois, du coup, on va tous croire que c'est un Depardieu, tu vois. Ouais. Et en fait, non, tu vois.
Ouais.
Voilà. Là, tu plouses des gens un peu.
Si tu veux vraiment faire un truc.
Si tu veux vraiment faire un truc.
Non, parce que Godzilla, qui dit Jean Reno, qui touche Jean Reno, c'est facile quand même. Regarde, on l'a trouvé tous les deux. Déjà
non, moi, c'était les chewing-gums américains. J'ai tellement vu ce film que.
Je savais que Perrine allait trouver quand même. Bravo. Allez, on passe à la suite.
Internet. Internet.
chaque fois, elle rigole. J'adore. À chaque fois, elle rit. On déballe les questions de nos amis internautes qui nous écoutent et nous regardent en direct. On a eu quelques salves de questions. On demande à Stéphane directement si tu as des attentes pour Godzilla 2. Je suis quand même obligé de te poser la question. Transition. Vu qu'on parlait de Godzilla à l'instant, donc c'est sans Roland Emmerich hein, pour le coup, mais Godzilla 2.
Ouais, mais c'est censé être la suite du Godzilla de Gareth Edwards, ce que j'aime pas du tout.
Oui.
Alors voilà. Voilà, il y a trois fois plus de monstres, donc peut-être que. Et puis des vrais monstres, hein, pas des trucs créés par eux-mêmes. Hein. Donc ouais, faut voir, je sais pas, j'irai le voir. Mais honnêtement, voilà. Par contre, pour ceux qui l'ont pas vu, faut vraiment voir Shin Godzilla, qui est vraiment, vraiment magnifique. C'est le dernier Godzilla d'Atto qui est sorti en 2016. Mmh. Je pense qu'il y a un Blu-ray anglais ou un truc comme ça. Quoi.
Il me semble qu'on avait fait un extra ball sur.
Mais c'est possible, Daniel, peut-être on avait parlé
avec Daniel ou avec Julien, je ne me rappelle plus.
Et c'est vraiment excellent. Ouais.
Très bien. Quelqu'un d'autre a des attentes sur Godzilla 2 ? Non ?
Ça a l'air joli.
Ça a l'air joli.
Non, mais les créatures sont. Pour le coup, la bande-annonce l'a montré quand même. Il y a une vraie recherche de design sur les créatures. Donc pour ça, ça donne un petit peu envie. Après, j'ai un peu peur qu'au niveau du scénar. Bah, les créatures, elles sont jolies. Voilà.
D'accord, ouais. Que ce ne soit pas suffisant. Une question pour David. Est-ce que, et on nous parle de la bande-annonce du nouveau De Palma qui est sorti.
Ah oui,
bah, dans ton avis.
Je l'ai vu, ça fait un petit peu peur quand même.
Ouais.
Alors après, de les quoi, bandes-annonces.
C'est quoi ce film ? Moi, j'ai complètement.
Domino.
C'est Domino, donc d'accord. C'est justement. Avec le mec, j'ai oublié son nom,
sais, Nicolas
Coster-Waldau. Voilà. Jimmy Lannister.
Et en fait, alors ça a vraiment une bonne grosse gueule de DTV. Et notamment, il y a une. En fait, comme, le truc, c'est que c'est vendu comme ça. Donc tu peux te dire que la bande-annonce voilà, détourne peut-être ce qui est vraiment le film. Mais il y a notamment une séquence, une sorte de séquence de poursuite sur un toit avec une chute où la séquence est un petit peu gardée dans. Enfin, avec un découpage sans doute différent, mais t'imagines que la séquence est un peu comme ça, et c'est vraiment, vraiment craignos. Donc, voilà, moi, ça reste De Palma, et moi, contrairement à Stéphane, même ses derniers films, je les aime beaucoup, y compris Passion. J'irai voir ça. J'irai voir ça. Déjà, je ne sais pas quand est-ce que le film va sortir, quand est-ce qu'on pourra le voir. Voilà.
Moi, je crois que déjà, aux États-Unis, il sort
c'est une sorte de sortie un VOD petit peu bizarre.
VOD,
c'est un day and date.
Mais un day and date, a priori, assez restreint. Donc, on est vraiment sur un modèle un peu DTV. Et en plus.
Ce qui veut dire que les parents de Perrine pourront le voir en streaming.
Maintenant, c'est devenu des gros hackers.
Grosse soirée.
Et puis lui a parlé d'une expérience compliquée avec sur la post-prod du film. Ça a l'air compliqué. Et malgré tout, il a apparemment une sorte de projet en tête, plus ou moins inspiré de l'affaire Weinstein, sur un nouveau film. Donc on verra ça.
À mon avis, plus ou moins inspiré de sa carrière, je pense aussi, parce qu'à mon avis, il a dû en voir passer des sales prédateurs.
Donc voilà. Ça fait peur, la bande-annonce. Ouais. C'est pas très engageant, mais j'ai quand même hâte de voir ça.
On nous demande s'il y a des nouvelles d'un nouveau Mad Max par Miller. On en parlait tout à l'heure de George Miller.
Bah non, il est en procès. Je crois qu'il est toujours en procès avec Warner hein, sur des droits qui sont liés à Mad Max Fury Road. Mm-hmm. Et donc pour l'instant, ça freine beaucoup les prochains films. Maintenant, moi, je t'avoue que on a atteint une telle perfection avec Mad Max Fury Road que je suis pas sûr en fait je serai le premier dans la salle au moment où ça sortira. Je ne suis pas sûr qu'il puisse réitérer ça.
On verra.
S'il y en a un qui peut le faire, c'est lui, mais voilà.
Oui. Très bien.
Ou Fabien Onteniente.
C'est
l'un ou l'autre.
C'est
l'un,
Asif Kapadia.
Ou Asif Kapadia, effectivement, possible. L'arrête de faire des documentaires. Question à l'équipe, vos grosses attentes sur les sorties ciné pour cet été ? Tiens, tant qu'on y est, déjà l'été, le printemps est à peine entamé.
Bah, le Tarantino, hein, qui sort en août.
Oui,
quand même. Voilà.
Pourquoi pas ?
C'est déjà pas mal.
J'avoue que le niveau de mongolitude de la dernière bande-annonce de Hobbs & Shaw.
Moi je suis trop attaquée là-dessus. Ah ouais,
donner envie de voir le film.
Ouais. Ah ouais, non, les deux.
À mon avis, ça va être pourri, mais non, en fait, j'ai envie que ça soit bien.
C'est quoi ça ?
Le spin-off de Fast and Furious, je n'aime aucun Fast and Furious, hein, c'est que de la merde pour moi. Mais là, en fait, c'est quand même The Rock qui fait un buddy movie avec Jason Statham.
Ah ouais.
Ah oui,
où ils se battent contre comment il s'appelle ils se battent contre merde Luthor là.
Dave Bautista.
Mais non, Luther, la série Luther. Oh, les mecs.
Idriss Elba,
merci. Qui est bionique, qui a quand même des bras bioniques et tout ça. Et en fait, apparemment, il descend d'un immeuble en rappel, il saute d'un hélico pour. Non, ça a l'air. Franchement, ça a l'air d'avoir. Il check avec des Maoris, tu vois. Enfin, non, ça a l'air.
Il n'y a pas d'animaux. Ça t'intéresse quand même.
Ils en trouveront peut-être.
Tu sais, moi, je suis pas l'homme d'un seul film. Hein.
Mais attends, est-ce que Jason Statham, c'est pas un petit animal en
c'est
soi
vrai que c'est
enfin,
un petit
tu
animal
vois, il y a un
en
petit.
Soi.
Ouais, c'est lui, c'est vrai que lui, on l'a pas croisé. On l'a pas croisé avec Laurence Olivier encore, mais,
ça peut arriver.
Si cet été, si moi j'ai le film de Danny Boyle, Yesterday, écrit par Richard Mayloff Curtis, que j'aime très très fort.
C'est un garçon qui se réveille et qui est le seul à se
C'est le remake de Jean-Philippe.
Hein c'est voilà.
le
remake de Jean-Philippe, ouais, plus
non,
ou moins.
Non, c'est
ouais.
pas le remake de Jean-Philippe.
Déguisé moins, franchement. Donc, hein.
Pas du tout.
C'est un peu la même idée.
Rien
hein.
à voir, complètement différent. Parce que là, c'est qu'il va aider Jean-Philippe à devenir machin. L'autre ne veut pas aider les Beatles à devenir les Beatles.
Et il prend leur place.
Il prend la place des Beatles.
Des chansons des Beatles.
Donc, et ça va être grandiose comme tout ce qui est écrit par Richard Curtis.
Très bien, voilà. Très bien, très bien.
Il y aura sûrement une bonne BO.
Oui, a priori.
La musique a l'air pas mal.
À peu près correcte.
Ne pas intervenir.
Non, ne dites rien. Ne dites rien.
Ah, t'aimes pas les Beatles, tu te détestes ?
Non, ils aiment pas
Richard
Curtis,
moi surtout.
Ah, pardon. C'est quand même pas pareil comme forme d'engagement. Ouais.
Non, les Beatles, ça va. Ouais. C'est pas mal.
C'est pas... Comme ça
va. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est pas mal.
Mozart, ça va. Est-ce que Robopocalypse va bien être réalisé par Michael Bay pour l'interrogation.
Bah, c'est un de ses projets, mais après c'est une ouais je sais pas parce que globalement enfin il a
j'ai,
repris
moi,
il a
Michael
repris...
Bay après c'est toi qui bosses
non mais il l'a repris c'est un projet de Spielberg hein.
Ouais, je sais.
Et il l'a repris récemment ça fait quand même 2 ans maintenant je pense que les mecs en parlent et il a son film Netflix quand même avant que j'attends beaucoup aussi. Mais voilà, j'aimerais bien le voir en salle surtout. Et voilà, mais sinon, faut voir, je sais pas. Je pense que c'est quand même. Tu sais, tout ça tourne très vite hein, au bout d'un moment. Donc,
oui.
Vu que ça fait quand même 2 ans qu'il est sur l'affaire, c'est pas gagné quoi.
C'est pas gagné encore.
Ouais.
Bon, très bien. On nous demande si on sera à l'avant-première d'Iron Sky 2. Alors, je ne sais pas. Moi, perso, non. Mais...
Non, mais alors j'ai vu un extrait
ouais, moi aussi,
du film où il y a un mec qui kick un raptor.
Qui est assez cool.
Et je me suis dit, ça a l'air suffisamment mongolien pour.
Ouais.
Si je vois Hobbs & Shaw, je peux regarder ça, je pense.
Ouais.
Hein.
Il peut
donc peut-être. Mais.
C'est l'absurdité du 1, ouais. Donc ça va quoi.
Parce que le premier, j'en m'en fous. Non, mais
il
c'est de la merde.
Il était pas bien, mais justement, ça va être dur de faire pire.
Oui, bon, ça après.
Il tape un raptor.
Ouais, il y a un combat avec un raptor.
Ça, c'est non.
Oui, mais le raptor répond.
Ah, c'est non.
À la fin, le raptor gagne.
C'est un combat de boxe avec un raptor.
Périne, le raptor va gagner.
Ça va alors, t'inquiète pas.
On a oublié Playmobil le film, quand même, dans nos attentes.
C'est vrai, Playmobil le film. Tu l'as vu, Playmobil le film ?
T'as pas signé un truc, toi ?
Et alors ?
Non, j'ai pas signé.
Bon, bah alors.
Ah, réfléchis.
Je ne sais plus. Voilà. Donc, je l'ai vu, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
D'accord, ok.
Et il y a, alors je ne sais pas si certains l'attendent ici, il y a Le Roi Lion aussi qui sort.
Ah oui, en live action.
Je l'ai déjà vu aussi, en 92.
Ouais, voilà.
Mais ouais, c'est exactement la même chose.
Alors c'était en 94.
Oui, bon, ça va.
Et
après, d'un point de vue technologique.
Mais t'as pété ma blague.
Et en 93, c'était à la fin. Mais tout à fait. Et. Donc voilà.
Même avec les Disney, t'es chiant.
Mais on n'est pas soutenus dans cette équipe.
Rien à foutre.
Soyons précis.
Rien à foutre. Tiens, j'étais sûr qu'on allait nous parler de Jean-Pierre Marial. On nous pose des questions sur Jean-Pierre Marial.
Ah, Jean-Pierre.
Sur Jean-Pierre qui
nous. Vas-y, dis-nous, bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a ?
J'étais sûr qu'il allait y avoir une imitation. On nous demande notre film préféré avec Jean-Pierre Marial. Tiens, tout simplement.
Calmos.
C'est Calmos, évidemment.
Les galettes de Pont-Aven.
Ou les galettes de Pont-Aven. C'est le côté, les petites pommes, la mousse, tout ça.
C'est ça. Non, c'est parce que j'aime bien les galettes de Pont-Aven.
Sinon, il y a Comme la Lune aussi, mais si on va
comme la Lune,
c'est
très
bien. Non, mais après, c'est vrai
qu'on bien fait de le prendre en violet.
Hein ouais, oui, c'est.
Ça éclabousse.
Ça éclabousse.
Ça mitraille sec.
Mais. Les gens ont beaucoup cité ces films-là hein,
quand il
est mort.
Quand il est décédé, ouais,
mais et effectivement, il est juste impérial hein, là-dedans, dans le rôle du beauf français moyen de l'époque.
Qui porte rien de Marcel.
Mais c'était aussi quand même un putain de grand acteur à la base. Mmh. Et il a fait pas mal de films. Bon, il y a évidemment Le Corneau pour lequel il a eu le César, Tous les matins du monde. Mais moi, je sais qu'il y a un polar, en fait, dans les années 80 qui était vraiment chouette et qui a switché un peu aussi dans sa carrière, quoi. Qui était Les Mois d'avril de son meurtrier, en fait, où ouais. C'était un vrai petit film noir. C'est vraiment à la française aussi, quoi, mais très, 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 très fort. Et
visiblement, ça a été vrai pour lui.
Certes.
Les mois d'avril sont meurtriers.
Wow. Ouais. Bam, bam.
Voilà, c'est tout.
Perrine Punchline Kenson.
C'était pour moi.
Encore frappé.
Bon bah voilà, elle a hijacké la conversation.
Attends, ça va, 94.
Un point partout, hein, pour le coup.
Mais donc c'était vraiment un mois, je trouve, même des gens... J'adore Rochefort et Noiret aussi, hein, qu'on a cité tout à l'heure, que tu as cité tout à l'heure. Quoi. Mais c'était vraiment, moi, Détroit, c'était mon préféré. Et surtout, un des, pour moi, meilleurs acteurs français... avec Gégé et puis Louis Tunès, quoi, en gros. Quoi.
Très bien.
Dont David, on aura fait déjà deux calmos, un hein, sur Gégé, un hein, sur
Des rigolos, pardon.
Mmh. Ouais. Mais c'est Calmos qui a
fait ça. Oui, donc tu penses que c'est notre...
Donc il faut faire Marielle, maintenant.
Ah non, j'ai cru que tu sous-entendais qu'on les tuait. Bah non, il y en a un qui est mort avant Tunès. C'était pas du tout ce que tu voulais
c'était
dire.
C'était pas l'intention.
Non, mais oui, bah Calmos, notamment, et puis... Et puis c'est bah, comme ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que c'est un sens du timing, c'est une incarnation, c'est un truc voilà. Enfin c'est et en fait même jusqu'à assez tard, moi je trouve que même dans les acteurs de Blier, le film a certains problèmes, mais lui est impérial dedans. Et puis je pense que sur la fin de sa vie, il était assez frustré de plus trop pouvoir jouer et de pas être au top de sa forme.
Apparemment, il avait Alzheimer.
Mais voilà. Après, c'est quelque part, c'est bah, comme Rochefort, ils ont une belle et grande vie, quoi. C'est des gens qui disparaissent assez tard et qui ont eu des très grandes carrières, c'était un peu le dernier. Il reste plus que Belmondo de cette bande du conservatoire. Oui. Et malheureusement, Belmondo, il est pas dans un état extraordinaire. Quoi.
Ouais, mais lui, il vaut mieux pas le voir tourner.
Voilà. Ouais, c'est limite criminel de lui faire tourner un film aujourd'hui.
Bah, il a fait le Francis Huster.
Voilà, c'est ce que je vous entends.
En parlant de choses criminelles, on nous demande si on a vu la bande-annonce de Sonic, ce qui est mon cas.
Ouais,
je l'ai regardé aussi.
Ouais. Voilà, c'est une expérience.
Bah alors, c'est entre Super Mario Bros. De ouais, l'époque le film, et, ouais, oui. Et Rocky Bullwinkle, là, le truc avec
De Niro. J'ai longtemps que
c'est pour ça, je sais pas pourquoi ces images sont frappées comme ça d'un seul coup, le PTSD est revenu, tu vois. J'étais genre, oh putain, c'est
en vrai. Je regardais la bande-annonce et je me disais, en fait, ils sont hyper fait chier, c'est super bien fait pour faire un sketch sur une idée complètement débile. Parce qu'en fait, le concept, se dire, bah allez, on va adapter Sonic en film, mais c'est surtout la manière dont ils le font, ça paraît complètement débile, quoi. Tu te dis, enfin, tu glisses le truc au SNL et à la fin, tu rigoles en disant, bien sûr, on va jamais
sortir le 12 et t'as fait la merde. Ouais, ça sort vraiment ça. Là.
Et alors après, t'as Jim Carrey qui a l'air en roue libre, enfin, t'as l'impression qu'il est là-dedans, mais.
Très belle postiche.
Ah, c'était ça.
Mais sans vouloir. Enfin, il y a quelque chose de très dérangeant, surtout que la dernière fois qu'on avait vu Jim Carrey.
Ouais, c'était on dirait De Niro dans Rocky Balboa. C'est pour moi c'est le même type de performance où tu fais oula, qu'est-ce qu'il fait,
il va pas bien le pépère, il y a un problème.
C'est pas la grande forme pour lui, hein.
Non, je comprends pas pourquoi tout le monde parlait de Jim Carrey aujourd'hui, je comprenais pas du tout, et maintenant ça fait sens.
Ça y est, d'accord, tu connectes les points. Puisqu'on parle de bande-annonce, il y a eu aussi une bande-annonce de Star Wars qui est parue il y a peu. Est-ce que les uns et les autres ont une réaction?
Non, toi, tu t'en fous complètement. J'ai jamais entendu parler.
Ok, très bien.
Bah, en fait, moi, je trouve que ce que je trouve assez génial, c'est que.
T'as quand même un truc à
dire. Ouais, il faut qu'ils t'expliquent. C'est-à-dire, ils te font la bande-annonce, et il faut vraiment qu'ils te réexpliquent au moment où ils te la montrent. Quand ils ont fait leur Star Wars Day, je sais pas quoi là, et où il faut t'expliquer que le rire à la fin c'est le rire de Palpatine, donc ils te font venir le mec qui joue Palpatine, tu vois, sur scène pour l'expliquer. Et là en fait tu te dis, ah ouais, donc en gros, vous avez buté, je spoil hein, les autres, hein, vous avez buté machin là au milieu du 2, là, fin du 2, du 8.
Quand tu dis vous avez buté machin, c'est pas un gros spoil.
C'est pareil, si j'ai pas d'investissement dans l'MCU, j'ai encore moins d'investissement dans les nouveaux Star Wars, et vous avez buter Snoke au milieu, mais en fait c'est comment on va se démerder, on va faire venir Palpatine, tu vois, et là tu te dis ah ouais d'accord, donc c'est vraiment niveau rat des pâquerettes dans la nostalgie. Et puis c'est assez évident que ils ont l'air de partir dans l'idée de vraiment, alors ça se voit pas forcément à la balance, mais je me réfère à l'heure entière dont j'ai vu un digest, hein, parce que faut pas déconner, d'interviews de J. Abrams et compagnie, où les mecs étaient en train de dire oui, bah, on va peut-être revenir sur l'histoire des parents de Rey, on va peut-être revenir sur, en fait, on va peut-être revenir sur tout ce qui a été fait dans l'épisode 8 pour finalement, voilà. Et ça, c'est pareil, c'était un peu couru d'avance, quoi.
Après, dans la bande-annonce, il y a la séquence dans le désert avec Rey qui est plutôt bien découpé, mais comme les gens l'ont montré sur Internet, c'est pompé... le découpage de La mort aux trousses. Ouais. Hitchcock,
oui. Non, c'est pompé sur Action Jackson. Okay. Parce que la scène où Carl Weathers il saute au-dessus de la bagnole, c'est la même. Donc voilà.
Pardon. Okay.
Action Jackson, ça fait toujours rire.
Bah oui.
Je repense aux images qui me reviennent, super film.
Craig Baxley.
Très très bien, très très bien. Moi j'ai surtout vu la version de la bande-annonce remontée où ils ont changé le rire de Palpatine, ils ont mis le rire de Seth Rogen à la place. Et ça c'était vachement mieux. Et
du coup, tu peux le faire avec Farrugia, tu peux le faire avec plein de mecs et tout.
Ce film-là, je le regarde, pas de soucis, plusieurs fois, pas de problème. On nous demande si on a des attentes sur Détective Pikachu. Enfin, on nous demande précisément si on va faire une émission sur Détective Pikachu. Je vais pas m'avancer quand même à ce point-là, mais tes attentes, Perrine.
Mais moi je suis étonnamment super curieux sur Détective Pikachu. En fait, il y a juste une séquence dans la bande-annonce qui m'a fait dire je veux voir ce truc. C'est un roudoudou qui a buté quelqu'un. Et là, je me suis dit c'est génial. C'est génial, le roudoudou tueur en série. Oui, on dirait que quelqu'un a fait pipi, mais oui. Non.
C'est ce que j'étais en train de me poser la question. Là.
Mais, c'est juste du sang.
C'est du sang. Stéphane s'est ouvert les veines.
Après avoir dit, je suis hypé par Détective Pikachu.
Il a entendu roudoudou.
Roudoudou, pourquoi pas, mais Pikachu.
Mais toi, t'es génération Pokémon.
Mais oui, moi, j'ai joué à Pokémon, j'ai grandi avec Pokémon, j'ai été voir les films Pokémon au cinéma, j'avais les cartes Pokémon, enfin, j'étais super Pokémon, en fait. Et donc, j'avais des Pokémon préférés, j'avais des trucs que j'avais les liens pour échanger des Pokémon avec
le câble
Link pour
changer les Pokémon. C'est quoi ton Pokémon préféré si c'est pas trop
Bah moi j'étais très
c'est pas trop spoiler.
C'est clair. Ça peut en dire très long sur une personne.
Mais non, moi j'aimais bien Evoli Mais bon ouais. Mais non, tout
ça
pour dire que
tout ça, hein.
Oui, c'est un peu facile mais parce que j'aimais bien, il pouvait faire plein de trucs pyrolite. Enfin, bon, mais non, c'était assez cool, mais tout ça pour dire.
Et les films Pokémon, en tout cas enfin moi pareil, j'ai grandi avec les Pokémon et donc
le mec à l'époque il regardait les galettes de Pontaven.
Le premier était vachement bien, le film Pokémon. Moi je m'en en salle, c'était la faux.
J'en ai pleuré.
Mais moi aussi, je pleurais. Attends, avec Mew et Mewtwo, là, de fifou, quoi. Non, mais voilà, il y a une part de moi là-dessus. Et je les trouve un petit peu fluffy, mignon, Pikachu. Je suis un peu hypée, je vais pas mentir. Et ça m'a fait même bizarre en regardant la bande-annonce en me disant, genre, merde, j'ai envie de le voir. Et voilà, donc j'en suis à ça. J'ai envie de le voir.
J'ai quand même un peu peur de voir mon enfant se faire malmener quand je vois que c'est genre Ryan Reynolds qui fait la voix de Pikachu. Quoi,
On mérite ce qu'on. Voilà. On mérite, mais sûrement.
On peut dire qu'on s'en bat les couilles, nous.
T'as le droit.
Bien sûr.
Tu piétines l'enfance des gens.
Mais pas du tout. C'est pas moi qui le fais, c'est le film qui le fait. Ça se voit quand même.
J'ai pas compris la moitié des mots qui ont été prononcés.
Bah mec, Julien, on s'est compris.
Voilà. J'ai cru que vous étiez compris, ça m'a fait plaisir.
Ah non, mais il y a eu un niveau
il
dauphin, tu vois. Communication
bon,
par onde.
On a scellé, c'est bon, scellé un truc, un pacte d'amitié.
Là. C'était un enthousiasme qui faisait plaisir à voir. Donc voilà, moi je suis content. Si vous avez passé un bon moment, je suis content.
Stéphane.
Ceci dit, c'était plus marrant que Cannes.
Ah oui, c'est
Oh, le salaud.
T'es incroyable.
Allez.
On était drôle en fait.
Stéphane, oui. On te demande si tu pourrais nous partager ton choix si jamais tu étais président du Festival International du Film de Sarpan.
Ah bah, tu cherches aussi.
On récolte ce qu'on sait.
C'est ta faute. Hein.
Ça va.
Des serpents dans l'avion.
Je sais pas, moi.
Des serpents dans l'avion.
Il n'y a pas un Francis Weber. Il n'y a pas un serpent dans un Francis. Anaconda, ok.
Voilà, tout le monde l'attendait.
C'est la vengeance du serpent à plumes.
Tout le monde l'attendait. Il y a plusieurs blagues sur Anaconda dans les questions. Hein. Voilà,
mais j'ai vu, il y a des mecs qui ont fait des blagues sur le fait que en fait, j'automatisais en paria mes recos.
Ah, j'ai pas vu ça.
Ouais, alors c'est pas vrai parce que je me fais chier.
Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que tu les dis. Non, c'est du travail. On va prendre une dernière question. Tiens, on nous demande si on a entendu parler ou si on a vu, même carrément, Jessica Forever. Est-ce qu'on en pense ? J'ai vu passer des bandes annonces personnellement, mais je n'ai pas d'avis préconçu.
Alors, comme David va chercher
le truc,
je pense que je peux répondre à sa place, il ne l'a pas vu.
Voilà. Non, Jonathan Poggi, enfin, je ne sais plus les noms, mais enfin, non, je ne l'ai pas vu.
Je crois que Julien l'a vu, mais il n'est pas là.
Pas vu.
Ah, c'est con, on ne l'appellera pas.
Pas vu.
Julien non plus.
Pas vu.
Ok, super. Eh ben, très bien. Écoutez, c'est un peu nul
sur cette dernière
question. Trouve une meilleure question.
Ouais,
ça va. Wow. Et on nous demande s'il faut attendre quelque chose du Mégalopolis de Francis Ford Coppola.
Bah déjà.
Qu'il le fasse.
S'il le fait, ouais, ça serait bien. Parce que moi, je transmets les questions. C'est un peu un projet de
The Messenger.
Non, c'est parce qu'il l'a réannoncé récemment.
20 ans, non
enfin, ouais, mais il l'a annoncé récemment, donc ouais. qu'il le reprenait, en fait.
Mais est-ce, que, mais est-ce qu'il va le faire enfin, c'est quand même compliqué.
Puis ça sort d'où de vouloir refaire maintenant.
Je sais, moi, le dernier couple que j'ai vu, c'était Jack.
Ah oui.
Et là, je me suis dit, oh, mais bon, c'est bon, là, je pense que je vais arrêter.
Moi, j'avais aimé Twixt, par exemple. Donc,
ah non, mais alors j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait non. Ça peut pas être le mec qui a fait Le Parrain, qui a fait ce film, ce n'est pas possible.
Putain, ouais, je
donc je ne le regarderai pas, moi, par respect.
Film, ouais. Si, si, mais après, pour le coup, Coppola, moi, c'est un mec que je trouve intéressant parce que, justement, c'est le mec qui a fait Le Parrain et qui, en même temps, ne s'interdit pas d'être quelqu'un d'autre, quoi. Et qui a une fin, enfin, une carrière.
Il était avant, hein.
Non, mais il a toujours cherché à se réinventer. Il a fait des trucs, des films. J'ai un doute sur le titre, mais Coup de cœur, ouais. qui est un film qui est une approche complètement
Va, hein.
différente du cinéma, et jusqu'à bah, que ça soit un projet comme Tétro ou Twixt, c'est je trouve des films qui effectivement ne ressemblent pas à ce qu'on attend du réalisateur du Parrain ou de celui de Conversation secrète ou celui de Coup de cœur, mais que je trouve intéressant. Que moi, par ailleurs, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est enfin, en fait, je ferais presque le parallèle avec De Palma, où pareil, les fins de carrière sont vachement rejetées par les fans de la première heure. Ben, moi, malgré tout, c'est des cinéastes que je trouve tellement au-dessus du lot que ça m'intéresse quand même, quoi.
Très bien, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, c'était très beau. C'était très beau David, merci. Merci d'avoir partagé ça.
Bah, de rien.
Et merci à tous d'avoir participé à ce Nos Ciné Club. Un grand merci à Quentin et Solène à la technique. Le prochain Nos Ciné Club, ce sera dans un mois, a priori un mois à peu près, on dira, parce que ce sera... Non, ce 4, ce sera fini, oui, ce sera fini. Quand ils seront revenus, binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.